Ce matin, la direction de la santé publique de Montréal a fait le bilan des décès liés à la canicule de l'été dernier, la grande chaleur, là, grosso modo, de la fin juin au début juillet, 30 juin au 5 juillet. 66 personnes sont décédées à la suite de cette vague de chaleur. David Kaiser, le docteur David Kaiser, est responsable médical, service environnement urbain et saines habitudes de vie à la Direction régionale de la santé publique. Docteur Kaiser, bonjour.
Bonjour.
Elles sont décédées de quelle cause, ces personnes? Je veux dire, de dire que c'est la chaleur, ça ne peut pas juste être la chaleur, hein?
Oui. Alors, en général, ce qu'on voit en période de canicule, c'est que les personnes qui décèdent sont des gens qui ont déjà un problème de santé. C'est sûr que de temps en temps, on a vraiment des coups de chaleur mortels. Alors, quelqu'un, peut-être un athlète ou quelqu'un qui est dans un contexte particulier.
De performance, par exemple?
Oui, de performance. Aussi, des fois, on le voit, une personne seule à la maison.
Qui ne boit pas, mettons, qui ne prend pas assez d'eau.
Qui ne boit pas, hein? Qui prend des médicaments, peut-être qui le rendent moins sensible à la soif ou à la chaleur et qui meurt. Ça, c'est rare.
C'est quoi? C'est le cerveau à ce moment-là qui a comme une espèce de court-circuit? Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit mourir d'un coup de chaleur, ça veut dire quoi, là, physiologiquement?
Physiologiquement, c'est que la température du corps monte plus haut que ce que le corps est capable de gérer. Alors, les différents organes commencent à lâcher.
À s'arrêter.
C'est vraiment ça.
C'est comme un shutdown, là.
C'est un shutdown parce qu'il fait trop chaud. C'est vraiment ça. Okay. Mais la plupart des gens qui meurent en période de chaleur, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un problème sous-jacent. Ils ont le cœur qui est faible, ils ont un problème respiratoire, ils ont le diabète. Et puis la chaleur ajoute un stress. Alors, c'est pas que la température du corps monte à 42 degrés, c'est que déjà le cœur est stressé par le fait d'avoir eu une crise cardiaque auparavant ou parce qu'on fait de l'asthme, les poumons sont un peu plus sensibles. Et puis la chaleur ajoute un stress au corps et puis ça dépasse la capacité d'adaptation d'un système, que ce soit le cœur, les poumons,
le système déjà affaibli.
Déjà affaibli.
C'est comme le stress est juste devient trop important.
Oui, et ça pourrait être d'autres stress. Le froid, un froid intense peut faire la même chose, mais la chaleur, c'est ce qu'on voit. C'est des gens qui ont des troubles cardiovasculaires, des troubles respiratoires, des personnes âgées, et puis le stress thermique, qu'on appelle, fait qu'on dépasse leur capacité d'adaptation, et puis ils meurent. S'ils se présentent à l'urgence, ils se présentent avec une aggravation de leur maladie sous-jacente. Alors souvent, à l'urgence, ils vont être vus pour une crise cardiaque, une crise d'asthme, une crise de MPOC.
Mais ils ne l'auraient pas eu si ça n'avait pas été de l'intense chaleur à laquelle ils ont été exposés.
C'est ça le principe.
OK. Là, ce qu'on réalise quand on regarde les chiffres que vous avez rendus publics ce matin, d'abord, la majorité de ces personnes-là sont décédées chez elles.
Oui. 80% à peu près.
Donc ça veut-tu dire que c'est des personnes qui sont mortes seules?
Y a-t-il
un facteur de solitude derrière ça?
En général, si on meurt à la maison dans ces conditions-là, au moins au moment de la mort, on est seul. Je veux dire, une personne qui commence à s'affaiblir, qui démontre des symptômes de stress liés à la chaleur, s'il est entouré de monde, ils vont l'amener à l'urgence, ils vont appeler 911. Alors, au moment du décès, en général, ça veut dire que les gens étaient seuls. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient complètement isolés? Non, pas toujours. En fait, une bonne proportion de ces gens-là ont eu des interactions avec des proches, quand on regarde le dossier médical, avec des proches ou avec le réseau.
C'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'il y a quand même des parents autour? Ils ne sont pas morts seuls, ce que je veux dire. Là. C'est du monde qui sont laissés tout seuls, tout seuls dans la vie. Là.
Il y en a des gens comme ça. Il y a des gens qui, par exemple, des personnes avec des troubles psychotiques sévères qui, pour différentes raisons, peuvent être isolées, sont dans des contextes très difficiles. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils sont très à risque. Mais aussi, beaucoup de monde, une personne de 75 ans avec une maladie cardiaque et pas nécessairement seul au monde. Mais au moment de leur décès, ben, ça veut dire qu'ils n'avaient pas accédé aux services nécessaires ou qu'on les a pas amenés au bon service pour pouvoir les protéger.
Alors, c'est quoi j'allais dire les solutions, peut-être le mot est un peu fort, mais comment on peut prévenir ces décès pour faire en sorte qu'on en ait moins lors de la prochaine canicule?
Oui. Alors, si la prochaine canicule arrive demain, ce qu'on a à notre disposition, c'est les interventions de type urgence. Si ça arrive demain, là, il n'y a rien qu'on peut changer dans la nature des quartiers.
Ouais.
Alors, on va être dans mieux les rejoindre. Il y a déjà du travail qu'on a entamé, déjà cet hiver, puis là, c'est assez avancé d'avoir un meilleur registre des lieux à risque. C'est-à-dire, en partant de ce que connaissent les pompiers, la police, les intendants du réseau de la santé, les inspecteurs en bâtiment, de dire, ben, on a 800 000 ménages à Montréal. Parmi ceux-là, c'est lesquels qui sont vraiment à risque en termes de, des lieux physiques, des maisons de chambre, des résidences privées pour personnes âgées. Il y a un spectre. Alors, ceux qui sont vraiment peut-être plus à risque, qui n'ont pas de clim, il y a une population plus à risque. Alors ça, à court terme,
on va avoir un registre de ça? Des lieux.
Oui.
Ah, OK.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille et qui est déjà... Alors, le travail de mettre ensemble les gens et d'identifier la plateforme qui va être utilisée par les partenaires qui interviennent est déjà en cours. On l'a pour cet été. Après ça, deuxième volet, c'est les personnes à risque. Il y a déjà des listes dans les CLSC, dans les CIUSSS, mais ces listes-là sont incomplètes. Et ça, c'est un travail qu'on n'a pas pour demain, mais qu'on entame aussi, c'est-à-dire dans certaines villes dans le monde, les gens peuvent s'inscrire à chaque été ou à chaque printemps et ils peuvent s'inscrire.
Et le fait de s'inscrire leur donne quoi? Leur donne un suivi? Il y a des gens qui vont les appeler, mettons?
Exactement. C'est une des interventions qui se fait.
Est-ce que vous allez bien, madame? Est-ce que vous allez bien, monsieur?
Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous venir en aide?
Mais on manque de personnel, Dr. Kaiser. On va vraiment avoir du monde. Là. Mettons qu'ils sont inscrits à ce registre-là, il va y avoir des gens qui vont les appeler. On va avoir le personnel pour.
En fait, je ne m'avancerai pas trop sur les détails, mais je peux dire une chose, c'est qu'au Québec, il y a déjà un projet pilote qui s'est fait en Montérégie, et puis un déploiement qui devrait être plus important dans l'année à venir, d'appels automatisés, qui sont liés après ça à d'autres interventions. Alors ça, c'est une partie de la réponse, c'est de dire, ça ne prend pas nécessairement une personne pour le premier appel. C'est des appels automatisés. Alors ça, c'est un système qui va être mis en place dans
Donc, si tu vas mal, si tu as besoin d'aide, peser sur le 1, voilà. Là, il y a une personne humaine qui t'appelle.
Voilà.
Okay.
Et d'accord. Puis après ça, c'est entre la prévention, puis avoir à gérer les conséquences, les prix ou les coûts, on peut toujours en débattre. La troisième chose, c'est que la canicule dans 3 ans qu'on va avoir, là, dans 3, 4, 5 ans, il y a du travail qui doit être fait pour changer les conditions dans les quartiers. Alors, les interventions d'urgence vont toujours être limitées par le fait qu'il y a des gens qu'on a de la difficulté à rejoindre, qui répondent moins bien à ce qu'on leur offre, ainsi de suite. Et pour ça, en santé publique, on a des mesures qu'on appelle passives. Ça veut dire que t'as pas à rien faire pour profiter de l'intervention. En transport, on pense aux saillies de trottoir. C'est une intervention passive pour réduire les traumatismes.
Saillies de trottoir pour
les traumatismes. Alors ça, c'est un exemple. En chaleur, on peut dire verdir les quartiers.
C'est quoi une saillie de trottoir pour les traumatismes?
C'est que pour réduire, par exemple, au niveau des piétons blessés, ce qu'on va vouloir faire, c'est changer l'aménagement. On met des saillies trottoirs pour que tu aies moins de temps de passage, tu es moins à risque de te faire frapper.
Ah, OK. Donc, un creux dans le trottoir.
Oui, c'est ça. C'est un exemple. Okay, alors, en chaleur, on a différentes interventions. Il y a au niveau des bâtiments, les toits verts, les toits blancs. Ça réduit la température locale. Les fenêtres, ce qu'on choisit comme un niveau d'isolation pour les bâtiments. Le verdissement. La plantation d'arbres, mais aussi tous les aménagements qui permettent de végétaliser, de mettre de la végétation dans les quartiers. Ça, c'est sûr, sur 30 ans, il y a un impact, mais aussi à court terme, sur 3-4 ans, on croit bien que si on intensifie ces actions-là, on peut avoir un impact quand même important sur l'exposition.
À la chaleur.
À la chaleur.
Parce que si tu mets des arbres, tu crées de l'ombre. Si tu crées de l'ombre, tu risques de diminuer la température dans l'habitation autour.
Oui, ce qu'on sait, il n'y a pas tant d'études que ça. C'est au début de cette science-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir un impact de 2, 3, 4 degrés. Alors, quand on pense à un îlot de chaleur, un endroit comme à Rosemont, à Hochelaga, où les températures sont quand même élevées, une journée chaude, une diminution, une baisse de 2, 3 degrés peut avoir un impact significatif sur le risque.
OK. Donc, il y a des solutions.
Il y a des solutions. Il faut avoir la volonté de les mettre en œuvre.
Oui. Non, mais ça, savez-vous, c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein? Dr. David Kaiser, responsable médical, services environnement urbain et saines habitudes de vie à la Santé publique de Montréal. Merci d'être passé.
Merci à vous.
Bonne chance pour la suite.